à Washington.
Abdourahman Dia en direct de Washington pour cette édition de 17h30 temps universel. Ce mercredi 28 février 2018 au sommaire. Au Mali, 7 militaires ont perdu la vie dans 2 attaques distinctes. En Guinée, le président Alpha Condé a rencontré le leader de la grève des enseignants, mais les cours n'ont pas repris. Au Rwanda, plus de 700 églises fermées par les autorités pour non-respect des normes de sécurité. Et dans la partie magazine, le gouvernement burkinabé qui lance un dialogue social avec pour objectif la baisse de la masse salariale.
Si le gouvernement en vient à cet exercice, c'est parce que depuis 2 ans, il n'a pas réussi à provoquer la rupture de ce que nous avons vécu pendant 28 ans.
Et puis le président afghan Ashraf Ghani a proposé une trêve en vue de pourparler avec les talibans. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Et tout d'abord, le journal. Au Mali, 7 militaires maliens sont morts, dont 6 dans une explosion de mine dans la région de Ségou, alors qu'un sergent des eaux et forêts a été tué à coups de machette par un individu non identifié. Les détails depuis Bamako avec Kassim Traoré.
C'est après une journée de patrouille entre l'interfleuve de Massina que les soldats maliens ont mis le cap sur la zone de Nyono, plus précisément Djabali. Sur cet axe, le véhicule des militaires maliens a sauté sur une mine. Bilan 6 morts, plusieurs blessés, le véhicule totalement détruit. L'engin explosif improvisé a fait une déflagration d'une forte intensité qui a été sentie par les habitants de Djoura. Heureusement, aucun dégât n'a été causé aux populations civiles. Dans la ville carrefour de Douanza, c'est en face d'un garage non loin du bureau du préfet, au niveau d'une place que la population de Douanza appelle Lougué, que vers 18h, un sergent des eaux et forêts a été tué à coups de machette par un homme armé non identifié. L'assaillant a donné 3 coups de machette aux soldats avant de prendre l'arme de ces derniers et disparaître dans la nature sans être inquiété. Les militaires, après ce forfait, ont organisé un ratissage tout au long de la ville de Douanza. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Cour de cassation du Niger a repoussé au 11 avril son délibéré qui était prévu aujourd'hui sur le pourvoi de l'opposant Ama Amadou, condamné à 1 an de prison pour trafic de bébés. Ama Amadou, ancien premier ministre et ex-président du Parlement, avait été condamné par contumace en mars 2017 pour recel d'enfants dans un trafic international de bébés. Ses avocats avaient décidé de se pourvoir en cassation. Il vit à l'étranger et il avait nié les faits et parlé de procès politique. En Guinée, la grève dans le secteur éducatif se poursuit malgré l'implication du président guinéen. Alpha Condé a reçu ce mardi à Conakry les syndicalistes grévistes sans réussir à faire suspendre le mouvement. Les discussions se poursuivent pour une sortie de crise qui dure depuis plus de 2 semaines. Le point avec Zakaria Kamara.
Plusieurs voix s'étaient fait entendre pour demander cette rencontre. Mardi soir, le président Alpha Condé salue ses invités au palais Sérou Touréa. Ensuite, écoute les syndicalistes qui ont lancé une grève illimitée dans l'enseignement préuniversitaire. Les deux parties s'écoutent, mais ne parviennent pas à obtenir la suspension de la grève. Les négociations se sont poursuivies mercredi à la demande du président guinéen qui a désigné quelques ministres et son conseiller personnel Thibou Camara. Il y a des difficultés financières et d'autres contraintes liées aux engagements avec les partenaires au développement, une situation peu favorable à la satisfaction du point lié aux 40% d'augmentation de salaire, explique le conseiller du président. Un point a été évacué ce mercredi. Il s'agit du paiement de la totalité des salaires du meneur du mouvement de grève, Aboubakar Souma, secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, a annoncé à son tour le ministre guinéen de l'énergie, membre de la commission de négociation désignée par le président Condé. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée demande à terme 8 millions de francs guinéens, soit 900 dollars comme salaire mensuel. Conakry, Zakaria Kamara, VOA Afrique.
Au Nigeria, la fièvre hémorragique de Lassa a fait 72 morts depuis le début de l'année. L'épidémie sévit dans 18 États. L'Organisation mondiale de la santé note dans un communiqué que 317 cas ont été recensés pour le début de l'année 2018 et les situe principalement dans l'état d'Edo, dans le sud du Nigeria. La mission des Nations Unies au Congo, toujours à la recherche d'un casque bleu tanzanien, disparu depuis plus de 2 mois après l'attaque meurtrière de sa base dans l'est de la RDC. La MONUSCO a lancé un appel à témoins pour toute information menant au retour du soldat disparu ou à une preuve de vie, a expliqué un officier de la force. L'ONU accuse les ADF, un groupe armé ougandais musulman actif dans le Nord Kivu. Les autorités rwandaises ont ordonné la fermeture de 714 églises et une mosquée dans Kigali parce qu'elles ne sont pas en conformité avec les normes de sécurité et d'hygiène. Certaines églises conduisent leurs services de prière dans des structures de mauvaise qualité et sales, au détriment de la santé et de la sécurité des gens, a déclaré Anastase Chiaka, chef du comité chargé d'évaluer les organisations publiques et privées. Il a ajouté que des cas de nuisances sonores ont aussi été rapportés et certaines églises opèrent sans les autorisations requises. Au moins 10 personnes ont été tuées et 15 autres blessées dans une collision entre 2 trains dans le nord de l'Égypte. 30 ambulances ont immédiatement été dépêchées sur les lieux, a indiqué le porte-parole du ministère de la Santé. Cet accident intervient quelques mois après qu'une collision entre 2 trains près d'Alexandrie a fait 41 morts en août dernier.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'enquête se poursuit sur l'incident provoqué hier par une lettre suspecte ayant rendu 11 personnes malades sur une base militaire en Virginie. Les 3 Marines hospitalisés ont quitté l'hôpital. Ils avaient expliqué avoir eu des sensations de brûlure sur les mains et le visage. Le courrier contenant une substance inconnue a été envoyé à la base militaire dont un bâtiment a été évacué. L'une des plus grandes chaînes de magasins d'articles de sport aux États-Unis, Dick's, a annoncé qu'il cessait immédiatement de vendre des fusils d'assaut semi-automatiques 2 semaines après la tuerie dans un lycée de Parkland qui a fait 17 morts. En outre, le distributeur ne vendra plus de chargeurs de grande capacité ni d'armes au moins de 21 ans, bien que certaines législations locales l'autorisent. Le PDG de Dick's a révélé que sa société avait vendu en novembre 2017 une arme au jeune homme responsable de la fusillade de Parkland. Par ailleurs, les cours ont repris dans le lycée qui a été le théâtre de la fusillade. L'Union européenne demande à la Russie, la Turquie et à l'Iran d'intervenir auprès du régime syrien pour faire cesser les combats dans la Ghouta orientale pour permettre l'acheminement de l'aide et l'évacuation des blessés. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
La population civile en Syrie et en particulier dans la Ghouta orientale a déjà beaucoup souffert. Elle a besoin d'un arrêt des combats, a déclaré Federica Mogherini, chef de la diplomatie européenne, dans une lettre adressée au ministre des Affaires étrangères de la Russie, de la Turquie et de l'Iran. Elle a appelé au respect de l'accord d'Astana signé le 4 mai 2017 par ces 3 pays et qui prévoit la création de 4 zones de non-agression dont la Ghouta orientale. Madame Mogherini a ajouté que l'Union européenne s'engage à faire en sorte que la 2e conférence de Bruxelles sur la Syrie, prévue les 24 et 25 avril prochains, permette d'atteindre cet objectif. Les combats se poursuivent malgré la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies appelant à un cessez-le-feu d'un mois et la trêve quotidienne de 5 heures décrétée par la Russie pour permettre l'acheminement de l'aide et l'évacuation des blessés. Les protagonistes s'accusent mutuellement de violer cette trêve. Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, a demandé aux rebelles et à leur soutien d'agir pour que cette trêve fonctionne.
Le président afghan Ashraf Ghani a proposé un cessez-le-feu préalable à des pourparlers de paix sous condition avec les talibans. Le point avec Nathalie Barche.
Cette proposition intervient au lendemain d'un appel des talibans aux États-Unis pour qu'ils discutent avec leurs représentants au Qatar. En préalable au pourparlers, le président afghan exige des talibans qu'ils reconnaissent la constitution, respectent les forces de sécurité et les droits des citoyens, en particulier des femmes. Les autorités s'engagent à assurer la sécurité des talibans qui accepteraient leur offre, à considérer leurs propositions et à lever les interdictions de voyager. Les talibans ont toujours refusé de reconnaître la constitution afghane de 2004. Quand ils étaient au pouvoir, ils n'en avaient aucune et avaient supprimé les droits pour les femmes. Toutefois, leur déclaration à l'intention des États-Unis mardi montre leur disposition à discuter après une série d'attentats meurtriers à Kaboul fin janvier.
Un procureur turc a requis plus de 4 ans de prison contre un présentateur télé. Il avait affirmé que si l'armée turque déployée en Syrie devait tuer des civils, elle commencerait par les traîtres habitants des quartiers libéraux d'Istanbul. Les propos du journaliste ont provoqué une levée de boucliers, de nombreux internautes y voyant une tentative d'intimidation des opposants au président turc, voire un appel au meurtre. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique à présent, la Minute Éco présentée ce soir par Eki Abadou.
En République démocratique du Congo, le gisement Kakula du projet Kamoa Kakula contient beaucoup plus de cuivre que précédemment estimé. La compagnie Ivano et Mine a annoncé lundi une hausse de 50% des ressources à une teneur de coupure de 3%. Suite à une nouvelle estimation, la mine Kakula hébergerait donc 174 millions de ressources minérales. En Côte d'Ivoire depuis mardi, le Conseil du coton et de l'anacarde a interdit la remontée vers les zones frontalières de tout véhicule ou engin transportant des noix de cajou, ainsi que des cargaisons refoulées à l'entrée des magasins portuaires et la fermeture systématique et immédiate jusqu'à nouvel ordre de tout magasin et centre de collecte situé dans les zones frontalières. L'an dernier, 390 000 tonnes de noix de cajou vendues à 98% vers l'Inde ont rapporté plus de 225 millions d'euros à la Côte d'Ivoire. Au Mali, le ministre du Développement industriel a posé mardi la première pierre d'une usine de production entièrement dédiée à la fabrication de Denil International en vue de la distribution de la marque de cigarettes au Mali. L'usine sera dans l'enceinte de la Société nationale des tabacs et allumettes du Mali, la Sonotam. Le coût de la réalisation s'élève à 10 milliards de francs CFA. Cette construction fait suite à un accord entre la Sonotam et British American Tobacco, conclu le 7 décembre dernier à Paris.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Neymar sera absent des terrains 6 à 8 semaines.
Et oui, les déclarations de son père, la visite à son chevet du médecin de la Seleção en atteste. Neymar, indisponible 6 à 8 semaines selon son clan, ne doit pas prendre de risques avec le Paris Saint-Germain afin de briller à la Coupe du Monde en Russie. La nation riverdée ne veut pas revivre le drame de 2014 lorsqu'il s'était blessé. Le PSG, qui a dépensé un record de 222 millions d'euros pour l'attirer cet été, en est donc quitte à écouter son père et a joué sans sa mégastar lors du huitième de finale retour tant attendu mardi prochain au Parc des Princes face au Real Madrid. On se souvient que lors de la Coupe du Monde au Brésil en 2014, la Seleção avait vécu un cauchemar, blessé en quart. Neymar avait dû quitter l'équipe nationale, on s'en souvient, balayé 7 buts à 1 face à l'Allemagne en demi-finale.
Dopage, la Russie annonce la fin de sa suspension par le CIO.
Le président du comité olympique russe, Alexander Zourkov, a annoncé ce mercredi que la suspension suite à des scandales de dopage avait été levée par le comité international olympique. Si le CIO confirmait cette annonce russe, ce serait une grosse surprise, car deux athlètes russes engagés lors des JO 2018 ont été contrôlés positifs en Corée du Sud, le curleur Alexander Kruchenitsky et la bobeuse Nadezhda Chergeva.
Et pour terminer, la NBA, le championnat de basket nord-américain.
La star de Cleveland, LeBron James, marque encore un peu plus l'histoire de ce sport. Hier, en inscrivant 31 points lors du match face à Brooklyn, remporté par les Cavaliers 129 à 123, LeBron James est devenu le joueur le plus âgé à terminer un mois avec une moyenne de triple-double. Mais c'est la première fois en 15 ans de carrière que le joueur parvient à réaliser une telle moyenne de triple-double en l'espace d'un mois. On va donner les autres résultats. Denver battu par les Clippers de Los Angeles 120 à 122. Miami qui s'impose sur le fil face à Philadelphie 102 à 101. Portland domine Sacramento 116 à 99. Et puis Milwaukee qui bat Washington 104 à 107. Enfin Charlotte qui domine Chicago 118 à 103.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, on passe au dossier du jour. Le gouvernement burkinabé a entamé un dialogue social pour baisser la masse salariale de la fonction publique. Le Premier ministre Paul Kaba Tieba a réuni les syndicats, le patronat, les partenaires techniques et financiers, le représentant du Haut Conseil pour le dialogue social, ainsi que les autorités religieuses et coutumières. Une conférence générale est prévue avant la fin du mois de mars pour statuer sur les différentes propositions. Eric Manirakiza a joint à Atlanta, aux États-Unis, l'un des acteurs de la société civile burkinabé, Ismaël Diallo.
Il faudrait d'abord saluer les efforts faits par tous les gouvernements au Burkina depuis l'indépendance d'avoir pu assurer les fins de mois des fonctionnaires. Il faudrait également saluer le fait que le gouvernement veuille avoir l'avis de toutes les strates de la société pour parvenir à des décisions consensuelles. Ceci dit, pour jeter un pavé dans la mare, si le gouvernement en vient à cet exercice, c'est parce que depuis 2 ans, il n'a pas réussi à provoquer la rupture de ce que nous avons vécu pendant 28 ans. Les syndicats burkinabés sont les plus francophones parce qu'ils vont en grève avant de discuter, apparemment. Et peut-être que chemin faisant, ils ont oublié les intérêts moraux pour mettre en avant les intérêts matériels.
Pour vous, c'est une équation à plusieurs inconnus.
C'est une équation à plusieurs inconnus et je doute que cette grande messe aboutisse à quelque chose. Je pense que le gouvernement peine à avoir un langage de vérité totalement franc et transparent avec tous les acteurs de la société. Les travailleurs du public sont combien comparés à toutes les femmes et les hommes du Burkina qui sont actifs, surtout dans l'informel.
Mais comment peut-on réduire un salaire qui est déjà devenu un acquis ?
Cela peut se faire en temps de crise et s'il y a une compréhension de tout le monde que c'est une nécessité absolue. Et si ceci se fait de bout en bout pour tout le monde et pas pour une partie. Seulement, il faut dire que notre fonction publique est très désaxée. Il y a des corps qui ont des avantages exorbitants pendant que l'autre peine. Combien gagne l'infirmière et la matrone? Combien gagne l'instituteur? Combien gagne le policier, le gendarme, comparé à ceux qui sont dans les bureaux, même s'ils sont aux finances et qui contribuent à mettre l'argent? En réalité, il y a beaucoup d'autres endroits où on peut faire des économies avant d'en venir à réduire les salaires. Là aussi, également, le gouvernement ne fait pas assez pour récupérer de l'argent qui traîne ici et là et pour réduire certains abus.
Il y a eu des augmentations cas par cas. Est-ce facile de les remettre en cause aujourd'hui?
Ce n'est pas facile, mais si le gouvernement a le couteau à la gorge, que doit-il faire? Que peut-il faire? C'était une erreur, justement, d'avoir satisfait des revendications au cas par cas. C'est un puzzle. Et quand on touche à un point, on déplace un autre. Il faut faire attention à tout le tableau et non pas agir au cas par cas.
C'était Ismaël Diallo, joint à Atlanta, aux États-Unis.
L'émission interactive de VOA Afrique, à votre avis, c'est à 18h05, temps universel. Selon l'OMS, 59% des femmes au Togo utilisent des produits éclaircissants. Elles sont 26% au Sénégal et au Mali et de plus en plus d'hommes y ont recours. Au Ghana et au Nigeria, des femmes enceintes prennent des pilules pour avoir des bébés à la peau claire. Que pensez-vous de la dépigmentation de la peau? Pour participer, laissez vos numéros et commentaires sur la promo de notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. À tout à l'heure sur VOA Afrique.
Au Mali, le processus de cantonnement, de désarmement et d'intégration était au centre d'un atelier à l'endroit des chefs de base des différents mouvements armés. L'objectif est de préparer un éventuel enregistrement des combattants. Reportage à Tombouctou, Abdoulaye Traoré.
La Commission nationale de mobilisation, désarmement et réinsertion poursuit ses activités à Tombouctou avec ce matin un atelier sur les documents et registres pour l'enregistrement des combattants. L'atelier est placé sous la présidence du gouverneur de région en présence du président de la Commission nationale de démobilisation, désarmement et réinsertion, Zahabi Ould Sidi Ahmed, accompagné d'une forte délégation. Le chef de bureau de l'aide de Tombouctou nous explique le contexte. Firoun Meiger.
Elle rentre dans le cadre d'une mission que la Commission nationale de guerre a organisée du 11 au 15 dans la région de Tombouctou, où en concertation avec les différentes bases, la question de l'élaboration des listes s'était posée. Les difficultés qui l'entravent et en même temps les souhaits et les possibilités de pouvoir actualiser ces listes.
Après cette étape de formation, les chefs de base procéderont au recensement des combattants. Nom, prénom, situation familiale, numéro d'armes tenu par le combattant, le site de son choix pour le cantonnement. Ce qui reste à savoir, est-ce que toutes les parties sont décidées à aller à ce cantonnement? Almou Ag Mohamed, porte-parole SEMA.
Du côté de la SEMA, tout est fin prêt pour aller à toute la mise en œuvre de l'accord. Nous, au niveau de la SEMA, on ne parle pas d'une mise en œuvre sélective de l'accord. On parle d'une mise en œuvre globale de l'accord. Vous savez que dans cet accord, il y a des dispositions politiques institutionnelles, il y a des dispositions relatives à la défense et à la sécurité, des dispositions relatives au développement économique, social et culturel et les dispositions relatives à l'humanitaire. Donc, au niveau de la SEMA, nous sommes prêts à aller à une mise en œuvre globale, efficiente et diligente de l'accord sur tous ces points, y compris le plan de défense et sécurité dans lequel est inscrit ce programme national de guerre.
La plateforme, depuis sa création, est un allié du gouvernement malien. Ghana Ould Mohamed, plateforme.
La plateforme est présente sur tous les terrains, partout, et surtout quand il s'agit de la paix, quand il s'agit de la stabilisation et quand il s'agit de la cohésion sociale, la plateforme est toujours prête pour vraiment jouer pleinement son rôle dans la mise en œuvre de l'accord de paix.
Depuis la signature de l'accord d'Alger, sa mise en œuvre incombe aux trois parties. Malgré les efforts de part et d'autre, des difficultés ont émaillé tout le processus. Colonel Major Baba Ahmed, Commission nationale DDR.
Il y a des difficultés chaque fois. Il y a un des partis qui se retire, il y a un des partis qui boycotte, c'est ça les difficultés. Sinon, le gouvernement, depuis le début, nous on était prêts. On a ouvert les bureaux dans toutes les régions. Les chefs de bureau sont désignés. On est prêts pour recevoir ces combattants et appliquer ce qui est dans l'accord d'Alger.
Abdoulaye Traoré, Tombouctou pour VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Le conflit en Casamance dans le sud du Sénégal demeure l'un des événements les plus douloureux de l'histoire contemporaine du pays. Vieille de plus de 35 ans, cette lutte armée du mouvement des forces démocratiques de Casamance a fait plusieurs centaines de victimes. Malgré un processus de paix instable, la région sud espère retrouver une paix durable. C'est Dina Bagay, envoyé spécial à Ziguinchor.
Après les indépendances, la Casamance demeure dans une relative précarité économique et les populations se sentent marginalisées par rapport aux autres régions du Sénégal. Au début des années 80, le Casasport, club fagnon de la région sud, est lourdement sanctionné par la Fédération de football suite à des incidents lors d'une finale de Coupe nationale. Ensuite, un élève est tué par les forces de l'ordre lors d'une grève à Ziguinchor, ce qui déclenche de graves émeutes dans le sud du Sénégal. Ces événements seront instrumentalisés, comme l'affirme Noa Cissé, historien et figure emblématique en Casamance.
Pendant trois jours ici, le pouvoir était pratiquement dans la rue, ce qui va alimenter un peu les foyers, ce qui va alimenter les regroupements pour monter véritablement les gens contre un ordre qu'on n'aime pas, contre une forme de gestion qu'on récuse et conduire à la fameuse marche du 26 décembre 1982. Ils sont allés à la gouvernance, bien entendu, et là-bas, ils ont voulu descendre le drapeau vert, jaune, rouge, frappé de l'étoile, et mettre en lieu et place le drapeau blanc.
Cette marche, réprimée dans le sang, conduit les indépendantistes du mouvement des forces démocratiques de la Casamance à prendre les armes et à rejoindre le maquis. Depuis lors, la Casamance est plongée dans une violente crise qui aura fait des centaines de victimes. Aujourd'hui, l'espoir d'une paix durable est réel grâce au changement de position de certains leaders de la rébellion, comme l'indique Ibrahim Gassama, journaliste basé en Casamance.
Pour la première fois depuis le déclenchement du conflit, on a vu quelqu'un comme Salif Sadio, jugé comme étant le plus radical des chefs de guerre, qui a accepté de ranger les armes et d'aller discuter avec l'État. Les autres également étaient dans la même dynamique. Maintenant, il y a eu un problème d'approche parce que certains se sont sentis exclus, n'est-ce pas, de ce processus, et on travaille, les acteurs travaillent aujourd'hui à les ramener dans cette dynamique et permettre aux choses d'être homogènes et d'aller à la table des négociations.
Dans le passé, des efforts de paix similaires sont restés vains malgré plusieurs périodes d'accalmie. Le journaliste Ibrahima Gassama estime que certains manquements dans le processus de paix sont imputables à l'État.
Il n'y a jamais eu de véritable continuité de l'État pour surveiller les accords de paix qui étaient signés et qui étaient souvent remis en cause. Parce que l'État, c'est une continuité, mais ce dossier lié à la gestion du processus de résolution de la crise casamançaise ou en Casamance n'a jamais fait de passation entre les présidents qui se sont succédés à la tête du pays.
Après une accalmie d'environ 5 ans, les armes résonnent de nouveau en Casamance. Le processus de paix qui est en bonne voie n'est cependant pas remis en cause. Les acteurs estimant que les récents événements ne sauraient arrêter plusieurs années d'efforts pour la pacification de la Casamance. À Ziguinchor, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur le lac Tchad qui lie le Sahel et l'Afrique centrale. Une conférence internationale se tient cette semaine à Abuja pour sauver cette région dévastée par le changement climatique, la famine et les conflits. Le lac Tchad est-il en danger de disparition? Où en est-on avec le méga projet de remplir le lac? L'enjeu sécuritaire est-il en train de corser la grave crise humanitaire qui touche la région? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum ce jeudi à 19h15.
Au Niger, des femmes résolvent à leur manière le problème de la famine. Certaines d'entre elles se lancent dans l'agriculture et encouragent d'autres à le faire. Ilsiamou Kassimou a suivi ces fermières nigériennes. Voici son reportage récit par John Lyndon.
Le jour se lève, Aïchatou Salifou est en route vers la ferme. À 120 km de route de Niamey se trouve sa ferme d'environ 243 hectares. Elle est située à Tamou, dans l'état de Saï. Aïchatou a commencé l'agriculture commerciale après la mort de son père. Elle est peut-être la seule à en faire son métier, considérant que les femmes instruites au Niger ne s'impliquent pas dans ce domaine.
J'aime l'agriculture et travailler avec les femmes du village est pour moi une bénédiction. C'est pourquoi je m'y suis engagée.
Environ 5000 personnes, dont 1000 femmes, profitent de la ferme d'Aïchatou, appelée Aïe Noma, ce qui signifie « cultivons ».
Pendant la saison des pluies, nous plantons du blé, des haricots, des noix et beaucoup plus.
Nous utilisons aussi des graines et des plantes dans des terres irriguées. Nous plantons de la laitue, du concombre et d'autres légumes.
Après la récolte, ils n'ont pas besoin d'aller au marché pour vendre leurs produits.
Après la récolte, ils ont des acheteurs déjà prêts. Pas besoin d'aller vendre au marché à bas prix. Nous les aidons à acheter à de meilleurs prix.
Vu les avantages tirés de cette ferme, les femmes ont lancé cet appel.
Notre problème, c'est l'eau. Nous n'en avons pas assez. Nous n'avons pas assez de pompes. Beaucoup de personnes veulent travailler, mais ne s'engagent pas, faute d'équipement.
Aïchatou Salifou s'adresse ainsi aux femmes qui travaillent avec elle.
Quand j'ai commencé, les gens disaient, c'est une profession masculine. Il n'y a aucune profession réservée aux hommes. Vous avez besoin de détermination et d'être à fond dans ce que vous faites.
À cause de son rôle dans la suppression de la faim au Niger, Aïchatou a été contactée par quelques experts agricoles indiens en vue d'un partenariat. Aïcha a aussi fait part de son projet d'ouvrir une école de formation agricole au Niger.
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Mise en onde, Georges Léonard Sagnon. À la console, Dan Crafton. Présentation, Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Écoutez.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.